Bonjour Immaculate. Bonjour Jean-Gilbert. Bonjour Rosanie. Bonjour Gérard. Bonjour Denise. Bonjour Pascal. J'espère que vous allez tous bien ce vendredi 5 août. Alors aujourd'hui, deux rendez-vous ce matin, bien entendu. Et vous êtes connectés. Et puis ce soir, 19h, pour notre temps de prière et d'intercession. Encore une fois, ça sera un temps un peu modifié comme la semaine dernière, puisque je n'aurai pas mon assistante préférée à mes côtés. Daphné, c'est sa dernière journée où elle fait du 6 à 6. Et puis, donc, elle va arriver en cours de route. Merci Gérard, merci Denise. Claude, bonjour. Gros câlin à Marcus, à Léa et à Débo. Salutations aussi à Derna. Ok, c'est bon, Emma. Couchez. Couchez. Tu fais de la tension aujourd'hui? C'est gentil, Pascal. Merci beaucoup. Je garde mes lunettes pour l'instant parce que j'ai de petits yeux ce matin. J'ai joué la guitare un peu trop tard et un peu trop tôt. J'avais amené la guitare pendant 24 heures chez un luthier. Donc j'ai dû m'ennuyer de la guitare et puis j'ai joué. Voilà pourquoi mes yeux sont un peu petits ce matin. Alors vous avez encore un bon 7 minutes pour vous saluer. Allez vous chercher quelque chose à boire. Aujourd'hui vendredi, donc c'est journée de jeûne et de prière, en tout cas dans mon cas. Et pour tous ceux qui le veulent aussi. Vous savez que le vendredi, on a pris pour habitude, depuis déjà 2 ans environ, de passer la journée en jeûne et prière pour ceux qui le peuvent et ceux qui le désirent. Et voilà pourquoi on a aussi deux rencontres le vendredi, le matin et le soir. Habituellement, on garde le matin aussi pour la prière, mais aujourd'hui, on va terminer donc notre enseignement pour cette semaine, puisque j'ai été absent lundi et mardi. Marguerite, bonjour. Bonjour à la belle-mère. Marie-Marthe, bonjour. J'ai pas regardé si c'était l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Alors, si vous le savez, vous m'en faites part. Bonjour Guy, Dieu te bénisse. As-tu des nouvelles de Mathieu? Comment s'est passée l'opération? Bonjour Louise, bonjour Michel. J'ai fait deux allers-retours dans votre coin en 24 heures. Je suis allé déposer la guitare à Repentigny jeudi soir, non, mercredi soir. J'avais quelque chose dans l'est de l'île. Puis je suis parti là-bas à Repentigny. Donc on est revenu par la 440. Donc on est passé par chez vous. Et je suis retourné la chercher hier, surprenamment. Il avait terminé en moins de 24 heures. Donc j'ai pu aller chercher la guitare hier. Et puis je suis passé donc par Mascouche-Terrebonne. Ou Terrebonne, Mascouche, je ne me rappelle plus. Et puis après ça, donc 4,40, 6,40, 40. Et voilà. Donc, je vous ai fait pareil de au loin. Merci Marguerite, bonjour à vous aussi. Donc l'opération a été reportée. Oh, dommage. Est-ce qu'on lui a déjà donné une date ou c'est pour plus tard? Bonjour Charlotte, que Dieu vous bénisse, bien content que vous soyez avec nous ce matin. Nathalie, bonjour. Shalom, la belle-mère. C'est fini, Lélie. Couchez. Est-ce qu'il était déjà rendu à l'hôpital lorsque ça a été reporté ou il l'a su avant? Bernadette, bonjour. Encore 2 ou 3 minutes et on va débuter. Je ne vois pas mes parents branchés ce matin. Je crois qu'ils ont trop de visites chez eux pour se brancher aujourd'hui. Bonjour Rosie. Soyez bénis. J'ai pas eu de nouvelles, mais logiquement, mon beau-frère, mon deuxième neveu et sa copine devaient arriver hier. Donc, logiquement, ils sont chez mes parents. Je crois. Je suppose. Donc, ils doivent être un peu trop fatigués, ils ont dû veiller tard. Ah, ça c'est pénible, Guy. Être à l'hôpital et apprendre que notre opération est reportée. Dur, dur. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça doit être pénible. On organise tout, puis à la dernière minute, alors que tu es sur place, on te change la chose. Mais bon. Parfois, il y a des impératifs qui font que on ne peut pas faire autrement. Ma mère et mon père, Rosie, ne sont pas encore branchés. En tout cas, je les ai pas vus. Mais s'ils regardent les commentaires tout à l'heure, ils seront assurément recevoir vos salutations. Babette, Andreas, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci Babette. Une minute encore et on débute officiellement. Donc je vous rappelle qu'on a un deuxième rendez-vous tout à l'heure à 19h tout à l'heure. Ce soir à 19h. Pour notre temps de prière et d'intercession. Et encore une fois, il sera modifié un peu parce que je serai tout seul. Daphné arrivera en cours de route. Donc vous aurez certainement l'occasion d'entendre Néma jappé à l'arrivée de la madame. Hermano Edwin, hermana Heide, que Dios me les bendiga ricamente. Ici, Rosie, c'est très humide, très chaud. Et humide. Alors prions pour débuter ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta paix. Merci pour les forces que tu renouvelles et merci pour ta parole, celle que nous partageons matin après matin depuis déjà plus de 2 ans. Merci pour ces bénédictions que tu nous donnes. Et pour cette occasion, Seigneur, d'être nourri et d'être abreuvé par ta parole, nous te demandons d'étendre ta main, de toucher notre compréhension, et en toute chose que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Sauveur, mais surtout de notre Seigneur, puisque tu es maître, propriétaire et Seigneur sur notre vie. Nous t'avons prié dans ton nom, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans 2 Timothée au chapitre 4, passage que nous étudions maintenant depuis 5 semaines. Dans 2 Timothée au chapitre 4, et je vais lire pour vous les versets 6 à 22. Puis, je relirai le verset 18 qui nous a servi de réflexion pour cette semaine. Dans la parole de Dieu nous dit, « Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens ou plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, c'est la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophée malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Et je relis donc le verset 18, une ou deux fois. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je le répète, ou en fait on le répète tous ensemble. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors cette semaine, la thématique que nous avons abordée, c'était de veiller à ce que la Seigneurie de Christ soit intacte dans notre vie. Veiller à la Seigneurie de Christ dans notre vie. Alors on a pris le temps d'expliquer ce qu'était Seigneur et l'importance d'accorder à Jésus la place de Seigneur dans notre vie. Seigneur, monarque, roi, propriétaire, maître de notre vie. Et on a vu que c'était parfois problématique pour nous parce que avec notre nature pécheresse, notre nature qui est corrompue par le péché, de même qu'avec la culture contemporaine, occidentale, plus encore, on a souvent de la difficulté à accepter de mettre notre vie sous la direction, sous l'autorité de quelqu'un. On veut expérimenter une certaine liberté, on veut maintenir une prétendue liberté, croyant qu'en fait on a déjà été libre. Foncièrement, nous ne l'avons jamais été. Depuis le péché d'Adam et Ève, nous sommes esclaves du péché. Et lorsque nous sommes rachetés par Jésus, contrairement aux pratiques de plusieurs, contrairement à l'idée reçue de plusieurs, il ne nous libère pas pour que nous soyons strictement des électrons libres et que puis maintenant on est maître de nous-mêmes. Non, la Bible nous dit qu'il nous rachète. C'est donc qu'il acquiert de quelqu'un ou il acquiert de nouveau de quelqu'un les droits sur l'existence de ses rachetés. Quand on rachète quelque chose, quand on rachète un terrain, quand on rachète une propriété, quand on rachète une voiture, c'est que celles-ci nous ont appartenu et que nous décidons, après l'avoir vendue à quelqu'un d'autre, après l'avoir cédée à quelqu'un d'autre, on décide de récupérer la chose. Donc Christ a récupéré les droits sur notre vie lorsqu'il nous a rachetés. Et ça, c'est quelque chose qui doit être compris, qui doit être assimilé, qui doit être enseigné dans les rudiments même de la foi. Jésus ne peut pas être notre sauveur s'il n'est pas aussi notre Seigneur. Jésus ne peut pas être notre sauveur si nous ne lui laissons pas tous les droits de regard, tous les droits d'intervention, tous les droits d'orientation sur notre vie et si nous ne nous soumettons pas à lui. Alors la thématique de la Seigneurie de Christ est donc importante. Dans ce verset, on se rend compte que parce que Jésus est le Seigneur de Paul, Paul a l'assurance qu'il va recevoir une délivrance. Parce que Jésus est Seigneur de sa vie, il a aussi cette assurance de rentrer dans le royaume de Dieu. Et hier, on a expliqué ce qu'était le royaume de Dieu, que c'est au-delà d'un territoire, au-delà d'un lieu géographique, au-delà de la question du paradis, de la question du salut, de la question de la nouvelle Jérusalem que Christ est en train de bâtir. Non, lorsqu'on parle du royaume, on parle plutôt du règne, donc de l'autorité qui est dispensée par le monarque, l'autorité qui est dispensée par le roi. Et dans ce cas-ci, donc, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu que la seigneurie de Christ doit être à la base de la vie du croyant, de la vie de l'enfant de Dieu, que la seigneurie de Christ, de cette seigneurie, va dépendre notre délivrance, notre salut et l'accès au royaume de Dieu. On a vu que l'assurance de la délivrance va découler de la position de Seigneur de Christ dans notre vie. On a vu que l'assurance du salut vient aussi avec le positionnement de Christ à titre de Seigneur dans notre existence. Très souvent, on perd cette assurance quant à la délivrance, on perd cette assurance quant au salut, quand on passe par des moments plus difficiles ou des moments où notre vie de croyant n'est pas ce qu'elle devrait être. Lorsqu'on laisse le péché rentrer, lorsqu'on a des pratiques qui ne sont pas celles qu'on sait approuvées par Christ, ben on commence à avoir des doutes sur notre salut, des doutes sur notre délivrance, des doutes sur le fait que nous soyons de bons réceptacles, de bons receveurs, récepteurs de la grâce, de la bénédiction, du salut, de la délivrance de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici que nous n'ayons quoi que ce soit à faire pour notre salut. Le salut se fait par la grâce. Le salut n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec Christ. Toutefois, pour notre assurance, pour la paix d'esprit, pour cette communion optimale avec Christ, il nous faut faire de lui non seulement notre sauveur, ce qui est chose relativement facile, mais faire de lui aussi notre Seigneur, qui est tout aussi facile, puisque ce n'est qu'un oui que nous accordons à Christ, en lui disant « Oui, je me soumets à ta volonté. Oui, je me soumets à ton autorité. Oui, je me soumets à ta Seigneurie. » Et Paul termine ce passage en disant « À lui, donc au Seigneur, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Au Seigneur, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et là, je reprends une notion que j'ai effleurée hier en fin de parcours, mais comme je savais qu'on allait en parler aujourd'hui, je me suis donc limité à émettre la chose sans expliquer trop. Gloire, qu'est-ce que c'est la gloire? En grec, pour ceux qui prennent des notes, et je sais que vous êtes nombreux tout le temps à le faire, c'est le terme doxa, D-O-X-A. En grec, donc, gloire, doxa. Et doxa parle effectivement de la splendeur, de la brillance, de la magnificence d'une chose, mais parle aussi de la majesté et plus encore de la majesté royale. Nous parle aussi de l'opinion, du jugement ou des vues d'une chose. Et ici, Paul va dire à Dieu, à Christ, à notre Seigneur, soit la gloire au siècle des siècles. Siècle des siècles, c'est une expression en grec qui se dit aion eis aion. Aion eis aion, donc A-I-O-N, un autre mot, E-I-S, et un autre mot, A-I-O-N, une deuxième fois. Donc aion eis aion. A-I-O-N, espace, E-I-S, espace, A-I-O-N, au siècle des siècles, qui veut dire pour toujours, sans cesse, sans interruption, éternellement. Donc Paul est en train de dire, la gloire revient à notre Seigneur d'éternité en éternité, sans interruption. La première chose que ça doit susciter comme questionnement dans nos pensées ce matin, c'est à savoir, est-ce que dans ma vie, effectivement, la gloire appartient toujours à Christ? Est-ce que dans ma vie, sans interruption, la gloire est toujours chose de Christ et non mienne? Vous savez, lorsque le Seigneur commence à nous utiliser, lorsque le Seigneur parfois nous fait gravir ce qu'on appellerait certains échelons, quand le Seigneur permet que des choses se passent à travers nous, que sa main puissante agisse à travers nous, les premières fois, les premiers temps, les premiers moments, effectivement, on est bien sage et on remet toute la gloire à Jésus. On s'assure de ne rien prendre pour nous, mais de tout remettre au Seigneur. Et j'en viens de te voir en disant, hey, ton témoignage est vraiment puissant. m'a vraiment touché, et tu réponds, ah ben c'est vraiment à la gloire de Dieu, c'est vraiment le Seigneur qui a tout fait, c'est pas moi. Et on a cette humilité, je dirais normale, acquise du néophyte, acquise du nouveau croyant. Malheureusement, lorsque ces moments intenses avec Christ se répètent, lorsque les compliments aussi se répètent, lorsque même l'admiration peut être suscitée chez les gens autour de nous, malheureusement, parfois, pour ne pas dire souvent, la gloire commence à dévier. Avant, c'était Christ tout seul, puis là, tout d'un coup, ça devient, bon, j'ai quand même travaillé pour ça. Tu fais une exhortation, puis on te dit, hey, comme c'était poussé ton exhortation, et là, tu dis, ouais, mais j'ai quand même étudié longtemps. Où j'ai quand même recherché pas mal. Regarde, tout ce que tu es capable de faire, tout ce qu'il t'est permis de faire, ben ça t'est permis. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas libre. Tout ce qu'il t'est permis de faire, c'est parce que Dieu te le permet. À un claquement de doigts, tout ce que tu es capable de faire peut s'évanouir. Tu étais capable de bien chanter. Et en un seul claquement de doigts, plus capable de chanter, plus capable de chanter sur la note juste. Tu étais capable d'aligner des raisonnements, des pensées, des arguments. En un instant, toutes tes capacités intellectuelles peuvent t'abandonner. Tu étais capable de t'exprimer avec aisance. En un instant, en un claquement de doigts, Dieu peut faire en sorte que ta fluidité au niveau de tes expressions, de ton parler, s'estompe et tu te mets à être bègue, à bégayer en un instant. Tout ce que tu es capable de faire, tous les talents, tout ce que tu as, rien de ce que tu as ne vient de toi. Tout ce que tu as a été reçu, a été donc donné par quelqu'un. Alors la gloire qui suit tout ce que tu fais doit être réacheminé vers Christ. Paul ne va jamais tirer la gloire pour lui. Dans tous ses propos, dans toutes ses exhortations, dans tous ses écrits, il ramène toujours la gloire à Christ, comme s'il avait cette phobie que la gloire lui monte à la tête, comme s'il savait qu'il était potentiellement en danger de devenir orgueilleux, il s'assure de toujours ramener la gloire à Christ. Et ici, il dit, c'est au Seigneur, au Maître, au propriétaire qu'appartient toute la gloire. Vous savez, dans des entreprises, il y a donc des employés qui travaillent fort et qui font en sorte que le travail soit exécuté, voire que le travail soit bien exécuté. Mais ceux qui retrouvent la gloire, ce n'est pas l'employé que personne ne connaît. C'est le chef de l'entreprise, c'est le propriétaire de l'entreprise. Lorsqu'on parle des grandes multinationales, prenons certaines entreprises, genre, je ne sais pas moi, Microsoft, que tout le monde a utilisé à un moment ou à un autre, Microsoft. Ce n'est pas Bill Gates qui fait fonctionner Microsoft. Ce sont les milliers, les milliers, les milliers d'employés qui travaillent pour Microsoft, qui font progresser Microsoft. Mais celui qui en tire profit, celui qui en tire gloire, c'est le propriétaire de l'entreprise, Bill Gates. Lorsqu'on parle de Apple, l'autre pendant, ben celui qui en a tiré la gloire pendant longtemps, ce n'était pas Monsieur, Madame Tartampion, comme le pasteur André aime utiliser le terme, qui travaille à telle échelle dans la structure de Apple. Celui qui en tirait la gloire, c'était Steve Jobs, qui était le président fondateur de l'entreprise. Donc assurément, chez nous, puisque nous sommes des serviteurs, celui qui doit en tirer la gloire, ce n'est pas nous, mais c'est Christ. Et c'est Christ parce que nous savons que tout ce que nous avons vient de lui. Il nous donne notre savoir, il nous donne notre connaissance, il nous donne les capacités. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et assurément, pour expérimenter pleinement la grâce de Christ, il nous faut cette notion d'humilité. Et parfois, c'est de réacheminer, de réorienter la gloire qu'on veut nous lancer dessus à bon escient et qu'on veut nous lancer dessus de bon cœur, non pas pour nous faire chuter, mais tout simplement parce qu'on honore le travail d'un serviteur. Mais cette gloire, on doit être capable de la réacheminer vers Jésus. Je suis tout à fait conscient que lorsque je prêche le matin, ben ça m'a demandé une préparation. Je suis tout à fait conscient des heures que je prends durant la semaine pour préparer l'enseignement du lendemain matin, voire l'enseignement du dimanche matin. Je sais le temps de prière, je sais le temps de lecture, je sais le temps que ça me prend pour aller chercher toutes les explications des mots en grec, en hébreu, en araméen. Je sais tout le mécanisme que ça me prend et tout le travail que ça me prend pour aligner les pensées, les arguments, pour que ça ait un sens logique pour chacun d'entre vous. Je suis conscient de ça et effectivement, c'est un travail que je fournis. Mais je suis aussi très conscient que cette capacité à faire ces différentes tâches et à faire ces différentes prérogatives liées à la préparation d'un enseignement, je ne suis capable de le faire que parce que Dieu m'en accorde la grâce. Et ça doit être important pour nous tous. Si tu chantes par grâce. Si tu prêches par grâce. Si tu prophétises par grâce. Si tu opères des miracles, tu opères des miracles par grâce. Si tu as des paroles de sagesse et de connaissance, ces paroles de sagesse et de connaissance te sont données par grâce. Si tu es capable de faire des hauts faits, ces hauts faits te sont permis par grâce et uniquement par grâce. Et si Dieu veut stopper le flux en un seul instant, il stoppe tout et tes capacités tarissent et tu n'as plus rien. Alors sachons ramener la gloire à Christ. Mais de surcroît à cela, quand Paul dit que à lui soit la gloire au siècle des siècles, non seulement il y a cette espérance de donner gloire dans tout ce qu'il fait à Christ, mais de surcroît à ça, il y a l'intonation qui vient avec. Il n'est pas en train de râler, il n'est pas en train de d'être misérable, d'être envieux en donnant la gloire à Dieu. Ouais, bon, je lui donne à lui, j'aimerais en garder une partie, mais bon, parce que je suis obligé. Non, il célèbre son roi, il célèbre son Seigneur, même dans des moments difficiles. Et vous voyez, la vraie louange qui sort dans les moments difficiles est peut-être la plus authentique qui soit. Être en train de louer lorsque tout va bien, c'est relativement facile. Être en train de louer Dieu lorsqu'on a été maltraité durant la journée et qu'on se retrouve pieds et mains liés dans un cachot, comme Paul et Silas vont le faire, comme Pierre et Jean vont le faire aussi, et être capable de louer Dieu et de célébrer Dieu, le dos entaillé, boursouflé, sanguinolant, parce qu'on a subi la persécution quelques heures plus tôt, et être continuellement capable de louer Dieu, cette louange a toute une puissance. Elle a la puissance de faire éclater la gloire de Dieu. Lorsque Paul et Silas, dans leurs moments difficiles, ont célébré le Seigneur, vous vous rappelez le tremblement de terre qui s'est passé. La Bible nous dit que tous les prisonniers entendait Paul et Silas louer Dieu. Et comme réponse à cette louange, il y a eu le tremblement de terre qui vient défaire les liens qui étaient attachés aux mains et aux pieds de Silas. Pour nous, ça doit être un enseignement. Si Paul et Silas étaient capables de le faire, si Paul ici, dans ce passage de 2 Timothée, est en train de louer Dieu alors qu'il sait que sa mort approche et que sa mort sera une mise à mort par les soldats romains puisque condamné à une telle sentence pour avoir servi Dieu, Paul pourrait se morfondre. Paul pourrait présenter l'œuvre de Dieu comme ayant été terrible, difficile, ardue. Non, il est en train de dire à Dieu soit toute la gloire. À une époque, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est très rare qu'on entende maintenant ce genre de discours, en tout cas dans le cercle qui est le nôtre. Mais à l'époque, lorsque des missionnaires visitaient une église, on entendait souvent combien leur travail était dur, combien le terrain était difficile, combien les gens étaient lents à comprendre et combien le diable était féroce contre eux. Et ce qu'on entendait des missions, ce qu'on entendait de l'œuvre de Dieu, c'est que c'était tellement terrible que foncièrement, si tu étais intelligent, tu ne te lançais pas là-dedans. Paul ici fait complètement le contraire. Il dit, je suis tout à fait conscient que je suis en train de mourir. Je suis tout à fait conscient que dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, qui sait, je vais être passé au lion, passé au gladiateur, je vais mourir. Et il dit, malgré tout ça, je me réjouis. Je me réjouis parce que je sais que j'ai combattu le bon combat, que j'ai couru la course, que j'ai gardé la foi et que la couronne de justice m'est réservée. Mais je me réjouis encore parce que je sais qui est avec moi et qui est mon Seigneur. Et toute la gloire va à lui. Paul était encore en admiration envers son Seigneur. Paul était encore en admiration par rapport à Dieu. Peut-être que tu passes par un moment difficile aujourd'hui. Est-ce que tu es malgré tout capable d'être dans cet esprit admiratif par rapport à Dieu? Tu as appris une mauvaise nouvelle hier. Tu as perdu un proche. Tu as perdu un emploi. Des portes se sont fermées. Un espoir que tu avais mis sur quelqu'un s'est dissous. Peu importe. Dans ce moment difficile, es-tu réellement capable de ramener la gloire à Dieu et de rester malgré tout admiratif sur qui il est? Tu vois ta mort arriver peut-être à cause de la maladie. Tu es sous les coups des médicaments, sous les coups des traitements médicaux. Est-ce que tu es capable, malgré tout, de regarder vers Christ et d'être contemplatif, d'être admiratif par rapport à sa gloire? Ou ça fait des années que tu connais le Seigneur. Tu célébrais Dieu avec tout ton cœur, avec toute ta force au début. Tu rentrais à l'église, puis tu avais un chant qui s'emparait de toi. Tu conduisais la voiture et puis tu avais des louanges qui sortaient de ta bouche. Tu faisais ton jogging et ton souffle suivait une rythmique d'un chant d'enfant qu'on entonnait à l'école du dimanche. Tu regardais, tu regardais la nature et tu pensais à son Créateur. Et tu restais là, admiratif, face à Dieu. L'es-tu encore aujourd'hui? Regardes-tu Dieu encore aujourd'hui? Regardes-tu Jésus encore aujourd'hui en étant étonné, en étant émerveillé par qui il est? Est-ce que la gloire, toute la gloire, lui revient encore aujourd'hui? Bonne question, n'est-ce pas? Es-tu aujourd'hui, en pensant à Jésus, as-tu un sourire qui se met sur tes lèvres? En pensant à sa seigneurie, en pensant qu'il est seigneur, qu'il veut être seigneur, qu'il est maître, qu'il veut être maître, qu'il est propriétaire, qu'il veut être propriétaire sur ta vie, es-tu ce matin en train d'être contemplatif? Es-tu ce matin, encore une fois, en train de regarder Christ, ton maître, ton Seigneur, et de sourire avec un cœur rempli de joie? Tu ne peux le faire que si tu as compris qui est Jésus. Tu ne peux le faire que si effectivement tu sais quel type de Seigneur et de maître il est. Et Paul termine son texte en disant « Amen ». Ainsi soit-il. En fait, c'est même pas son texte parce qu'il va continuer. Il fait cette petite tirade. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Le Seigneur me sauvera pour entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au Seigneur soit la gloire, au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il veut dire qu'il n'y ait pas d'autre option. Est-ce que dans ta vie, tu dis, sois Seigneur, ainsi soit-il, point à la ligne. Est-ce que tu es capable de regarder Jésus et de dire, sois le maître absolu de ma vie. Sois le maître absolu sur tout ce qui se passe dans ma vie. Sur tout ce que je ferai. Je m'incline, je me dispose devant toi pour être assujetti à ta seigneurie, ainsi soit-il. Je sais que la délivrance ne peut venir que de ta position de Seigneur dans ma vie, ainsi soit-il. Je sais que mon aspiration à la vie éternelle ne peut se concrétiser que par ta position de Seigneur dans ma vie. Ainsi soit-il. Je sais que ma soumission est demandée, exigée par ta position de Seigneur. Ainsi soit-il. Je sais que tu ne partages pas ta gloire, qu'à toi est toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance. Tu n'as pas besoin de moi pour t'aider. Ainsi soit-il. Je reste contemplatif ou je suis appelé à rester dans l'émerveillement par rapport à ta personne. Ainsi soit-il. Est-ce que tu es capable de dire effectivement, ainsi soit-il aujourd'hui? Prions. Seigneur, on a parlé cette semaine de ta seigneurie. Et celle-ci n'attend qu'un oui de notre part. Tu restes Seigneur des Seigneurs même si on te refuse les droits de notre vie. Tu restes roi des rois même si on te refuse ton règne dans notre existence. Mais ce matin, on veut réfléchir à notre position de serviteur, de sujet du roi. Et je ne peux pas prier à la place de mon frère ou de ma sœur. Je ne peux prier que pour moi-même, parce que cette décision est strictement personnelle. Un mari ne peut pas la prendre pour son épouse et vice-versa. Un pasteur ne peut pas prendre cette décision pour ses congrégants. Un papa, une maman ne peut pas prendre cette décision pour ses enfants. Tout comme un enfant ne peut pas prendre cette décision pour son parent. Cette décision de te laisser la place de Seigneur, de te laisser tout le droit de Seigneur sur notre vie, c'est une décision tout à fait personnelle. Alors je prie, Seigneur, que ceux qui m'écoutent ce matin soient nombreux à pouvoir dire « Ainsi soit-il », comprenant réellement l'engagement et réellement les paroles qui sont prononcées. Ce matin, peut-être qu'il y a un ouvrier qui se rend compte qu'il a volé une partie de ta gloire, qu'il a pris une partie de la gloire pour lui. Peut-être que c'est un serviteur qui, depuis un certain temps, n'a pas pris de temps pour t'admirer simplement. Peut-être que c'est un croyant qui, depuis un certain temps, décide pour lui-même, bien que sachant que ce qu'il fait, vers quoi il va, ce n'est pas ton choix et ta volonté. Alors je prie, Seigneur, que pour nous tous, dans les spécificités de nos vies respectives, nous puissions effectivement parvenir à cet endroit où nous te disons « Ainsi soit-il, sois notre Seigneur, dans tout ce que ça comporte, dans tout ce que ça implique. » Parle à nos cœurs, parle à nos pensées ce matin, parle-nous durant toute cette journée et montre-nous les domaines, les secteurs dans lesquels nous ne t'avons pas laissé ta place de Seigneur. Et je prie, Seigneur, que nous ayons la sagesse de remédier à la situation. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom du Sauveur et du Seigneur éternel, Christ Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va se retrouver ce soir, 19h. Comme je disais tout à l'heure, ça sera une soirée un peu modifiée, un peu comme la semaine dernière. Mon épouse fait du 6 à 6 depuis 2 semaines. C'est le dernier jour où elle a un tel horaire. Son assistante va être là la semaine prochaine, donc elle rentrera un peu plus tôt. Mais d'ici là, donc, elle faisait du 6 à 6. Donc, Daphné va rentrer en bus et va arriver pendant que nous serons déjà en onde. La semaine dernière, elle me disait que c'était important que je sois à mon poste et que vous ayez ce temps de prière, même s'il était un peu modifié. Donc, ce soir, donc 19h, on se retrouve pour notre temps de prière et d'intercession, un peu modifié. Donc, on fera des prières un peu plus génériques par rapport aux thématiques qu'on aborde habituellement. Alors, on vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite une bonne journée dans la Seigneurie de Christ ou sous la Seigneurie de Christ. Et on vous souhaite d'expérimenter sa présence comme jamais auparavant. Et on se retrouve ce soir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.